Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h à Melbourne, 5h du matin à Paris. Vous écoutez SBS French, votre programme en français. Je suis Marianne Murat, je suis très heureuse de passer cette heure en votre compagnie. Aujourd'hui au programme, comme chaque samedi, il y aura la rétrospective. On vous emmène aujourd'hui à l'année 1982, année de la sortie du film E.T. l'extraterrestre réalisé par Steven Spielberg. Si vous n'avez pas encore vu ce film vieux de 40 ans, je vous conseille fortement de le regarder cet après-midi, pourquoi pas, puisqu'il fait pas beau et qu'il fait froid, en tout cas ici à Melbourne. En deuxième partie d'émission, on ouvrira une page largement consacrée aux élections législatives en France, puisque J-1, le premier tour, c'est demain en France et dans les DOM-TOM, en France métropolitaine et dans les DOM-TOM. Les Français de l'étranger, eux, ont déjà voté, on en parlera en fin d'émission. Tout ça, c'est le programme pendant une heure. On commence maintenant avec votre journal. À la une de l'actualité de ce samedi 11 juin, Anthony Albanese propose un chèque à la France 9 mois après la rupture du contrat des sous-marins. Une note très salée pour le contribuable australien, mais un pas nécessaire, dit le Premier ministre. Trois soldats étrangers combattant aux côtés des Ukrainiens condamnés à mort par un tribunal pro-russe dans la région de Donetsk. Le Royaume-Uni s'alarme, mais Moscou ne bouge pas. L'Organisation mondiale de la santé n'exclut plus la possibilité d'une fuite en laboratoire pour expliquer l'existence du Covid-19, un revirement de taille pour l'OMS qui, après 2 ans et demi d'enquête, fait toujours chou blanc. Et enfin, du sport et 3e match consécutif sans victoire pour l'équipe de France en Ligue des Nations, on en parle dans le Journal des Sports. Un accord financier a été trouvé entre la France et l'Australie 9 mois après la brusque rupture de contrat de 12 sous-marins. 555 millions d'euros, soit 830 millions de dollars, vont être versés à Naval Group pour, je cite, « un règlement juste et équitable », annonce faite par le nouveau Premier ministre Anthony Albanese. À savoir que le coût total de cette rupture de contrat s'élève à plus de 3,4 milliards de dollars. Pour le Premier ministre, cet argent représente un gaspillage massif dépensé par les contribuables, puisque bien oui, ce sont nos impôts qui vont payer, mais qu'il s'agit là d'un passage obligé pour réparer les relations avec la France.
France is a key partner for Australia. We share those historical ties going back to the First World War. And we share common interests in a stable Indo-Pacific region. We can now reset the relationship without this clouding. That relationship going into the future.
Et pendant ce temps-là, le vice-premier ministre Richard Marles est à Singapour pour un sommet avec plus de 30 autres dirigeants. Il s'agit là de son premier déplacement en tant que nouveau ministre de la Défense. Au programme des discussions, la sécurité dans la région Indo-Pacifique, qui représente l'enjeu stratégique le plus conséquent de notre temps, selon Richard Marles justement. Dans l'actualité internationale, et on le disait en titre, trois soldats, deux Britanniques et un Marocain, ont été condamnés à mort par un tribunal pro-russe situé dans la région de Donetsk, en Ukraine. Aiden Aslin, Sean Pinner et Brahim Saadoun étaient engagés aux côtés de l'armée ukrainienne. Ils ont été capturés lors de la bataille de Mariupol. Une décision que condamne fermement le Royaume-Uni. La ministre des Affaires étrangères précise que ce jugement est une violation grave de la Convention de Genève, mais son homologue russe Sergei Lavrov a déjà répondu qu'il n'interférerait pas dans cette condamnation rendue par les séparatistes.
На данный момент At the moment, all the processes that you mentioned are based on the legislation of the Donetsk People's Republic, because the crimes were committed on the territory of the DPR. Everything else is already a subject for speculation. I would not interfere with the work of the judicial and law enforcement system of the Donetsk People's Republic.
Les avocats des trois hommes ont indiqué qu'ils allaient faire appel de leur condamnation. 2 ans et demi d'enquête et toujours rien ou presque. On ne sait toujours pas comment le coronavirus est apparu subitement dans nos vies. Revirement de situation, l'Organisation mondiale de la santé n'exclut même plus l'hypothèse d'une fuite de laboratoire. Dans un rapport publié ce jeudi, un groupe d'experts affirme que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer comment le virus a émergé en Chine. C'était fin 2019, début 2020. Comprendre entre les lignes, toutes les hypothèses sont finalement envisagées. Réaction immédiate de la part de Pékin qui dénonce un mensonge de la part de l'OMS.
The lab leak theory is totally a lie concocted by anti-China forces for political purposes, which has nothing to do with science. China has invited a team of international experts from the WHO to visit the relevant lab in Wuhan. The joint study report also clearly concluded that the laboratory leak was highly unlikely.
Et dans le même temps, toujours à propos du Covid, les États-Unis vont supprimer dès demain, le 12 juin, les tests Covid-19 pour les voyageurs arrivant sur le territoire par avion. On le rappelle, les États-Unis sont l'un des pays les plus touchés au monde par l'épidémie de Covid-19. Une annonce temporaire toutefois, la situation sera réévaluée dans 3 mois afin de guetter l'irruption ou non de nouveaux variants. Aux États-Unis, toujours, les auditions sur l'attaque du Capitole le 6 janvier 2020 ont débuté hier et sous le feu des projecteurs, dès cette première journée, Donald Trump. À l'aide de témoignages et d'images inédites des violences de ce jour-là, les élus ont tenté de prouver l'existence d'une campagne délibérée pour renverser le résultat de la présidentielle de 2020. L'ancien président est accusé d'avoir rassemblé la foule, je cite, et d'avoir allumé la mèche de cette attaque, selon la vice-présidente de la commission, Liz Cheney. S'adressant directement aux républicains, elle dit « Vous défendez l'indéfendable, un jour arrivera où Donald Trump sera parti, mais votre déshonneur lui restera. » On l'écoute.
President Trump believed his supporters at the Capitol, and I quote, were doing what they should be doing. This is what he told his staff as they pleaded with him to call off the mob, to instruct his supporters to leave.
Liz Cheney, donc vice-président de la commission parlementaire en charge de l'enquête sur l'assaut du Capitole. Donald Trump dénonce, lui, une chasse aux sorcières et a de nouveau fait l'éloge de cette journée, l'assaut étant pour lui le plus grand mouvement de l'histoire pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Fin de citation. Direction à la France à présent et les réquisitoires du procès des attentats du 13 novembre 2015. Les 3 procureurs de la République ont requis la perpétuité incompressible à l'encontre du seul survivant des attaques, Salah Abdeslam, Nathanaël Vitran pour Radio France Internationale.
On se doutait, après les réquisitoires, que les avocats généraux n'avaient pas été convaincus par les excuses tardives présentées aux victimes par Salah Abdeslam. Et à l'encontre du principal accusé, il demande la perpétuité incompressible, c'est-à-dire sans aménagement de peine possible. La perpétuité demandée aussi pour Mohamed Abrini, l'homme qui par 2 fois a renoncé à la dernière minute à se faire exploser. Mohamed Bakali, présenté comme la cheville ouvrière de la cellule terroriste, mais aussi à l'encontre de Sofiane Ayari et Osama Krayem, 2 djihadistes aguerris qui l'accusation en est perpétuée. Persuadé, aurait dû commettre un attentat le 13 novembre à Amsterdam. Contre les 2 hommes qui ont fait le voyage depuis la Syrie avec les 2 Irakiens du Stade de France mais qui ont été stoppés dans leur périple, le ministère public demande 20 ans de prison. Avec Molenbeek, le cercle amical et familial est l'autre pilier de la cellule terroriste, dit l'avocat général, pour justifier les peines de 9 et 16 ans de prison demandées à l'encontre de Yassine Attar, Abdelachoua et Ali Eladad Assoufi. Les peines demandées les plus légères concernent Farid Karkash, accusé d'avoir fourni des faux papiers la cellule terroriste, 6 ans de prison, et les 3 hommes qui ont aidé Salah Abdeslam dans sa cavale. Le parquet réclame de 5 à 8 ans de prison.
Nathanaël Vitran pour RFI, et on le rappelle, les attentats du 13 novembre 2015 à Paris ont coûté la vie à 131 personnes, en ont blessé des centaines, sans parler des séquelles psychologiques pour des milliers d'autres. Et sans transition, la météo de cet après-midi, l'hiver s'est bien installé dans la partie sud du pays, de la pluie à Perth, 22 degrés, Adélaïde 15 degrés, Melbourne, il pleut 13 degrés, Hobart comptait 11 degrés, Canberra 10 degrés, à Sydney, il faut compter 16 degrés, degrés cet après-midi, Brisbane 18 et il faut monter dans le nord pour trouver du soleil à Cairns 25 degrés, Darwin 31. Le rappel des titres, l'Australie propose 830 millions de dollars à la France 9 mois après la rupture du contrat des sous-marins, 3 soldats étrangers condamnés à mort par un tribunal pro-russe, les auditions concernant l'assaut du Capitole aux États-Unis le 6 janvier 2020 se poursuivent aujourd'hui, et enfin l'OMS n'exclut plus la possibilité d'une fuite en laboratoire pour expliquer l'existence du Covid-19.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Il est 13h10 sur SBS French, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté. Restez avec nous, ce n'est pas la fin de l'émission. Tout de suite, le journal des sports. On va parler de la troisième journée de la Ligue des Nations et cette déception de plus pour les Bleus. Le journal des sports de votre samedi 11 juin 2022 et on commence avec du football. Après la défaite face au Danemark de 2-1, puis au nul concédé en Croatie, eh bien les Bleus enregistrent un troisième match sans victoire en troisième journée de Ligue des Nations. Un but partout face à l'Autriche hier soir, c'est Kylian Mbappé, tout juste entré en jeu à Vienne, qui a marqué en deuxième période. La réaction à chaud du sélectionneur Didier Deschamps, fataliste mais pas forcément inquiet.
C'est pas les résultats évidemment qu'on espérait. Après, je suis obligé de composer aussi avec des pépins, de la fatigue un petit peu aussi. On a été mené, on est revenu. On a eu la mainmise, mais on n'a pas eu l'efficacité. Des fois, avec peu d'occasions, on peut marquer plus de buts. Là, on a eu vraiment beaucoup d'occasions, d'opportunités. Bon, après, il y a toujours une jambe, le gardien, la barre. C'est dommage que mes joueurs ne soient pas récompensés par rapport à tout ce qu'on a fait de bien.
Prochain rendez-vous pour les Bleus, ce sera lundi au Stade de France face à la Croatie. Football toujours, et Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain seraient proches de trouver un accord pour le poste d'entraîneur. Des sources proches du dossier n'ont pas démenti les discussions, mais nient toutefois toute signature. Cédric d'Oliveira.
L'usage du conditionnel est toujours de rigueur pour des recrutements de cette ampleur. Mais si l'on en croit certains médias français, Zinedine Zidane serait bien en négociation directe avec l'émir du Qatar. Désireux de faire de grands changements après la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG aurait fait de l'entraîneur français sa priorité numéro 1. Zidane est libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid l'été dernier et il a l'avantage d'avoir déjà remporté à 3 reprises la Ligue des Champions, le rêve absolu du club de la capitale. Il est aussi français, ce qui n'est pas anodin, alors que le président de la République, Emmanuel Macron, s'est récemment prononcé en faveur de son retour dans l'Hexagone. Si l'arrivée de Zizou était confirmée, ce serait un énorme coup sportif et médiatique pour les actionnaires qatariens à 5 mois de la Coupe du Monde dans leur pays. Mais rien n'est encore fait. L'actuel entraîneur, l'argentin Mauricio Pochettino, a toujours 1 an de contrat et Zidane, natif de Marseille, n'a jamais paru intéressé par le projet parisien. Son conseiller historique Alain Migliaccio a d'ailleurs démenti tout contact entre les deux parties. Nous ne sommes sans doute qu'au début d'un feuilleton de plusieurs semaines.
En revanche, c'est bel et bien officiel pour Luis Campos, nommé conseiller sportif du PSG. Le Portugais de 57 ans sera en charge de la performance, du recrutement et de l'organisation de l'équipe masculine. Et on en vient maintenant à ce procès très médiatisé. Michel Platini, ex-président de l'UEFA, et Sepp Blatter, ex-président de la FIFA, tous deux sur le banc des accusés pour escroquerie devant un tribunal pénal fédéral suisse. Les deux géants du football mondial doivent s'expliquer sur un versement suspect de 1,8 million d'euros fait à Michel Platini par la FIFA. On écoute justement Michel Platini, le triple ballon d'or en cours jusqu'à 5 ans de prison.
Moi, à qui j'en veux, c'est à la FIFA. C'est les commissions d'éthique, c'est tout ça, ou c'est une grande mascarade. Voilà, c'est tout. Lui, il fait son boulot, il dit tiens, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai, on va donner ça au tribunal, il décidera, je sais pas. Comme il y a un grand phénomène médiatique autour de ça, peut-être qu'il dit je le laisse au tribunal. Mais après, j'espère qu'il fait son boulot.
Et pour terminer, vous avez bon espoir cette fois d'être entendu ici?
Ben ça y est, ils m'ont déjà entendu. J'ai bon espoir qu'ils me croient.
Vous sentez comment la réceptivité de ce tribunal ?
Oh, le tribunal, il fait son travail très correctement. Voilà, je sais pas. C'est la première fois que je suis devant un tribunal suisse. Certainement la dernière.
Cette audience doit se poursuivre jusqu'au 22 juin prochain et la décision, elle, est attendue le 8 juillet. Enfin, un mot des suites maintenant de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Jeudi, la FFF, la Fédération Française de Football, ainsi que Didier Lallemand se sont expliqués devant le Sénat. Le préfet de police de Paris admet des défaillances tout en s'estimant être le seul responsable des débordements. On l'écoute.
C'est à l'évidence un échec, car des personnes ont été bousculées ou agressées, alors que nous leur devions la sécurité. C'est un échec aussi, car l'image du pays, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, a été ébranlée. Mais je dois insister au-delà de cet échec sur le fait que, face à une crise d'ampleur, dans un contexte dégradé et difficile, nous avons fait en sorte que le match se tienne et surtout, qu'il n'y ait aucun blessé grave et aucun mort. Je suis le seul responsable de l'ordre public et de la sécurité. Donc j'assume la totalité des décisions prises et des conséquences de la situation. Je ne sais pas comment je peux vous le dire mieux que ça, monsieur le sénateur, mais j'espère être parfaitement clair. Vous me dites, vous vous renvoyez la balle. Je ne renvoie la balle qu'à moi, c'est-à-dire je suis le seul responsable.
Et on apprend aussi que la justice a demandé à récupérer les images de vidéosurveillance seulement après ces auditions, soit 12 jours après les faits. Des images qui ont en réalité été effacées puisque le règlement du Stade de France prévoit la suppression des vidéos de ces 220 caméras après un délai de 1 semaine, 7 jours. Et en cyclisme à présent, le Français Valentin Ferron s'est imposé sur la 6e étape du Critérium du Dauphiné. Tous les détails avec notre collègue et spécialiste Christophe Mallet.
C'est la victoire de Valentin Ferron qui est quand même une surprise parce qu'il était au sein d'un groupe d'échappés relativement de haut niveau. Alors, c'est pas qu'on l'attendait pas, Valentin Ferron, mais il fait surtout partie d'une équipe Total Energy, ce qui surprend sur ce Dauphiné. Et en tout cas, c'est une belle victoire pour un Français. C'est toujours beau d'avoir une victoire d'un Français sur un tour comme le Dauphiné, le Critérium du Dauphiné. Donc, c'était vraiment de belles heures et de beaux moments hier qu'on a pu passer sur SBS. Valentin Ferron est un beau vainqueur et puis, bien sûr, on a le porteur du maillot jaune à l'heure actuelle, Wout van Aert, le Belge, qui a vraiment dominé ce Critérium du Dauphiné. Est-ce qu'il va pouvoir garder son maillot jaune jusqu'au bout? Ça va être la grosse question. Et le Belge a été dominant à toute cette partie de la première partie de saison. Mais pourquoi pas écouter le vainqueur de l'étape hier, c'était son moment de gloire, Valentin Ferron.
Ouais, c'est vrai qu'on était une belle échappée, il y avait vraiment des solides devant. Je savais que j'avais pas une pointe de vitesse, j'étais pas le meilleur au sprint, donc j'ai vu qu'il y avait un petit moment de temporisation, je me suis mis derrière, j'ai giclé, et après j'ai tout mis jusqu'à la ligne, et ça l'a fait, c'est génial.
Voilà, c'était donc Valentin Ferron, le Français, plutôt content d'avoir gagné cette étape pour son équipe Total Energies. Le Critérium du Dauphiné se déroulera tout ce week-end d'ailleurs, et on aura la chance de pouvoir en parler ce soir à l'antenne de SBS.
Christophe, une autre question sur ce Critérium du Dauphiné, parce qu'on ne peut être que fiers, nous les Français, c'est un podium 100% français, n'est-ce pas ?
C'est sur l'étape, c'est un podium 100% français. Ce serait mieux si on avait un leader français qui pourrait gagner ce critérium. L'année dernière, c'était un Australien, donc on était presque déjà à moitié content, en tout cas, on pouvait être content pour le pays hôte, pour l'Australie. C'était Richie Porte qui l'avait gagné, mais cette année, ce sera un Belge. Alors, chapeau pour nos amis belges. Si Wout van Aert va jusqu'au bout, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un Français qui pointe son nez dans une épreuve comme le critérium du Dauphiné, parce que c'est une épreuve qui est préparatoire pour le Tour de France, donc ce serait assez prémonitoire pour nous. Mais malheureusement, il n'y a pas ça. Mais c'est vrai, on essaie de se réjouir où on peut. Et trois Français sur les marches du podium hier dans une étape, ce n'est pas souvent que ça arrive. Alors, on peut faire un bon gros cocorico, c'est sûr.
Trois Français, Valentin Ferron, Pierre Roland et Warren Barguil. Christophe, dans le même temps, il y a une autre course de cyclisme, une course féminine, une des plus importantes courses féminines, c'est le Women's Tour.
Le Women's Tour of Britain, alors, comme son nom l'indique, ça se passe en Grande-Bretagne. C'est peut-être la deuxième ou troisième plus grande course du calendrier féminin. Je dis deuxième ou troisième plus grande course parce qu'avant ça, il y avait le Giro d'Ona, qui est donc le Tour d'Italie. Mais il y a le Tour de France femme qui arrive à l'antenne d'ailleurs d'SBS encore une fois. Ce sera fin juillet, mais ça n'a pas encore eu lieu. Donc, on va dire que c'est la deuxième ou troisième plus grande course donc, par étape pour les femmes. Et là, pour le coup, on a vraiment une très, très, très belle bataille puisque les deux leaders du classement général se tiennent dans la même seconde. Elles sont ex aequo, donc au classement. Elles ont mis exactement le même temps pour arriver jusqu'au bout. Et il y a surtout l'Australienne Grace Brand qui est en tête, qui porte donc le maillot de leader. Et donc, c'est vraiment une belle opportunité pour Grace Brand pour, de pouvoir peut-être remporter ce Women's Tour ce soir d'ailleurs. C'est la dernière étape. On verra comment cela va se dérouler. Ça risque d'être compliqué parce que c'est des étapes plutôt montagneuses et Grace Brand, elle a vraiment plus de mal que Elisa Longo-Borghini dans la montagne. Mais on va écouter d'ailleurs Grace Brand parce qu'elle nous explique comment elle pourra gagner.
I'm not quite sure how we're going to approach it yet, whether we go for the sprint bonuses or... I also have a really strong sprinter teammate in Clara who won the first stage, so she might be able to take the sprint bonuses for me, which puts a little bit of stress off my shoulders.
Voilà, donc c'est peut-être Grace Brand, l'Australienne, qui explique bien comment elle pourra gagner. Il faudra donc prendre tous les sprints intermédiaires par ses coéquipières. Le vélo, le cyclisme, c'est vraiment un sport d'équipe. C'est là où on comprend. C'est qu'en fait, elle va essayer d'envoyer ses équipières pour prendre tous les points de bonification avant, pas pour ses équipières, mais simplement pour pas les laisser à sa concurrente, Elisa Longo-Borghini. Donc, beaucoup à jouer ce soir. Ce serait beau d'avoir une victoire de Grace Brand sur les routes de Grande-Bretagne parce que Grace Brand est bien à court pour une équipe française, la FDJ, la Française des Jeux Groupama. Et donc, ce serait le meilleur des deux mondes, une Australienne qui gagne sur un maillot français. On pourrait que être content, Marianne.
Et justement, Christophe, si on veut tous les résultats, toutes les dernières informations, que ce soit pour ce Women's Tour ou le Critérium du Dauphiné, il suffit de vous regarder à la télévision ce soir. Vous serez à Sydney, c'est ça ?
Ouais, et si vous avez rien d'autre à faire un samedi soir, bah tant pis, il faudra passer la soirée avec moi. on sera à l'antenne à 22h50, donc c'est pas forcément très tôt non plus. Mais ouais, sur SBS, on va faire un bon gros débrief et on va suivre l'étape, les deux étapes d'ailleurs en parallèle. Donc une soirée télé avec Catherine Bates et Kate Bates et Gracie Elvin qui seront avec moi sur le plateau. Que ça peut être une bonne soirée cyclisme si vous aimez ça.
Merci Christophe.
Merci Marianne.
Voilà, c'était le journal des sports de ce samedi 11 juin 2022. La chanson Avec Jeanne, chantée par Vincent Delerme. Tout de suite, comme chaque samedi, c'est l'heure de la rétrospective. On remonte aujourd'hui à 1982 et le 11 juin 1982 sortait le film E.T. l'extraterrestre aux États-Unis, film réalisé par Steven Spielberg, qui fête donc aujourd'hui ses 40 ans. Nous sommes le 11 juin et comme chaque samedi, c'est l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, nous allons revenir en 1982 et nous allons parler de cinéma. Le 11 juin 1982, donc, sortait aux États-Unis l'un des plus gros succès de l'histoire du box-office, E.T. l'extraterrestre, un film encore considéré aujourd'hui comme l'une des œuvres les plus abouties du réalisateur Steven Spielberg. Retour sur la sortie de ce classique avec Léo Roussel et des archives sonores de l'Institut National de l'Audiovisuel et de France Télévisions.
Une bande originale devenue culte, composée par John Williams, qui en l'espace de quelques secondes rappelle le chef-d'œuvre réalisé par Steven Spielberg. E.T. l'extraterrestre sort dans les salles obscures le 11 juin 1982 aux États-Unis, quelques jours seulement après avoir clos sous les applaudissements la 35e édition du Festival de Cannes en France. E.T. c'est l'histoire d'amitié entre Elliot, un jeune garçon de 10 ans, interprété par Henry Thomas, et un extraterrestre laissé sur Terre par sa famille. Cette créature venue d'une autre planète est recueillie par le jeune Elliot qui le cache d'abord dans un placard et le nomme E.T. pour extraterrestre. Les deux compères vont nouer une relation amicale forte et le jeune Elliot, malgré son attachement à son nouvel ami, va tenter de lui permettre de rentrer chez lui auprès de sa propre famille.
E.T. téléphone à sa maison.
E.T. téléphone maison.
Un film qui questionne l'existence de créatures extraterrestres dans l'univers, mais qui traite surtout à la fois de la solitude chez l'enfant, Elliot n'a pas d'amis à l'école lorsque débarque l'extraterrestre dans sa vie, mais aussi de la tolérance, puisque E.T. est une créature hors du commun. Je vous propose d'ailleurs d'écouter comment il était décrit par France Roche, journaliste et critique de cinéma sur Antenne 2 lors de la sortie du film en France à la fin de l'année 1982.
Son héros est une bébête pas vraiment gracieuse en forme de bobine, munie de pattes palmées et de doigts de sorcière. Perdu sur Terre et menacé par les adultes, il est recueilli et sauvé par un petit garçon, adorable bien entendu. Spielberg a inventé le conte de fées post-atomique, E.T., c'est le petit chaperon rouge de l'espace, au pays des grands méchants hommes.
Alors, ce film, dès sa sortie aux États-Unis, c'est un véritable carton. Il suscite un engouement impressionnant, notamment chez les enfants qui rêvent tous d'avoir pour ami E.T. Et l'extraterrestre créé par Spielberg est élevé au rang de star, comme l'explique ce reportage diffusé sur Antenne 2 en novembre 1982.
E.T. s'annonce comme le plus grand succès de l'histoire du cinéma américain. Clientèle privilégiée, les enfants, bien sûr. Ils rêvent tous de rencontrer E.T. pour pouvoir l'aider à rentrer chez lui. Certains, dit-on, ont déjà vu le film jusqu'à 8 fois. Avec l'approche des fêtes de Noël, avec cette passion des enfants pour E.T., le petit monstre sympathique envahit l'Amérique. Il est partout.
Alors, E.T., c'est un film à gros budget à l'époque, 10,5 millions de dollars, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'argent injecté a rapidement été rentabilisé. Le film cumule plus de 793 millions de dollars de recettes et est resté en tête du box-office mondial pendant, accrochez-vous, 11 ans, de 1982 à 1993, avant d'être détrôné par un autre film de Spielberg, Jurassic Park. Alors, E.T. c'est aussi un film salué par la critique et primé à de multiples reprises. On peut citer notamment la cérémonie des Oscars 1983, qui a largement mis l'œuvre de Spielberg à l'honneur. Le film a été récompensé des Oscars de la meilleure musique originale, du meilleur son, du meilleur mixage et bien entendu des meilleurs effets spéciaux. Le film sera aussi auréolé du titre de meilleur film dramatique aux Golden Globes la même année. En 2022, E.T. l'extraterrestre fête donc ses 40 ans et il est encore aujourd'hui considéré comme un film culte qui a inspiré un tas d'œuvres de science-fiction par la suite. En témoignent au fil des années les nombreux clins d'œil de la culture populaire au film. On peut penser parmi tant d'autres aux références de la série à succès Stranger Things, produite et diffusée par Netflix depuis 2016.
On en parlait durant le sommaire, J-1 avant les élections législatives en France métropolitaine et dans les dom-toms. On va écouter maintenant un extrait de l'Europa Voice numéro 98. On l'a tourné hier avec Nathanaël Bloch. La seconde partie de cette Europa Voice sera diffusée demain dans le journal de Jean-Noël Ducasse. Restez sur SBS French, une très courte page de publicité et Europa Voice partie 1. Europa Voice numéro 98 aujourd'hui et comme pour tous les épisodes, nous sommes avec Nathanaël Bloch. Nathanaël, bonjour.
Bonjour Marianne.
Les élections législatives en France, ce 12 juin, c'est le premier tour et le résultat s'annonce encore très incertain. Est-ce que c'est la majorité présidentielle qui va l'emporter ou au contraire, est-ce que c'est la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, donc le parti de l'Union de la Gauche? Les derniers sondages, Nathanaël, donnent justement la NUPES en tête avec 28% des intentions de vote au premier tour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette élection législative, ce scrutin, a un enjeu de taille.
Oui, il a un enjeu de taille, Marianne, effectivement. Et puis, rappelons-le, pour prendre un petit peu de recul, quand on était passé du septennat au quinquennat, L'idée était que les élections législatives se passaient dans la foulée de l'élection présidentielle pour que, en fait, la couleur qui était élue avec le président soit reflétée au Parlement et qu'il n'y ait pas de risque de cohabitation avec un décalage de 2 ans. Donc là, ce serait assez intéressant de voir si, malgré ce changement constitutionnel et le fait d'avoir des élections législatives dans la foulée d'une élection présidentielle, on voyait une assemblée beaucoup moins encline à être de la même couleur que le président. Donc ça, c'est un élément qui est assez intéressant. Et effectivement, alors il y a plein de sondages qui ont été réalisés, mais dans un des derniers sondages réalisés pour Radio France et France Télévisions, pour l'instant, l'alliance de gauche qui est donc emmenée par Jean-Luc Mélenchon obtiendrait 28% d'intention de vote au soir du premier tour, un point devant justement Renaissance qui réunit La République En Marche, Le Modem et Horizon. Donc beaucoup d'incertitudes sur en fait qui arrivera en tête à l'issue du premier tour de ces élections législatives.
Est-ce que Emmanuel Macron joue gros dans cette élection, Nathanaël, et est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'issue du second tour, donc le 19 juin, il n'est pas la majorité absolue au Parlement?
Oui, c'est tout à fait possible qu'Emmanuel Macron n'obtienne pas, à l'issue du second tour, la majorité absolue. Ça, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas assuré et qui serait une première, en fait. Après, ça ne veut pas dire que Emmanuel Macron et son parti n'arriveraient pas en tête à l'issue du deuxième tour. Parce que après le premier tour, avec les reports de voix, avec le fait que simplement les candidats ayant obtenu plus de 12,5% des voix sont qualifiés pour le second tour, avec encore une fois les désistements, malgré l'avance d'un point obtenu par le parti emmené par Jean-Luc Mélenchon à l'issue du premier tour, c'est quand même Emmanuel Macron et sa majorité Renaissance qui auraient le plus de députés à l'issue du second tour. Mais encore une fois, effectivement, la vraie question, comme vous l'avez mentionné, c'est est-ce que Emmanuel Macron arrivera à avoir cette majorité absolue ou est-ce qu'il devra composer avec une autre force politique? Et la problématique de savoir s'il devra composer avec une autre force politique, c'est que déjà Renaissance est une réunion de plusieurs partis, c'est-à-dire que c'est La République En Marche, le Modem et de Bayrou et Horizon de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Donc la question, c'est pas tellement en termes de réserve de voix, comme il peut y avoir entre deux tours, mais c'est plutôt en termes de réserve de parlementaires qui pourraient s'inscrire dans le projet politique de la majorité. Quel serait-il? Est-ce que ça ira voir du côté de la droite républicaine? Est-ce qu'il y aura des dissidents? Est-ce qu'il y aura des indépendants? Donc ça, c'est la vraie incertitude, parce que rappelons-le, il faut qu'après l'Assemblée vote la confiance du Premier ministre. Donc est-ce que ça veut dire aussi que même s'il a une majorité relative et même si c'est le premier parti de France, est-ce qu'il devra changer de Premier ministre aussi pour donner des gages justement à un allié dont il aura besoin pour former une majorité absolue? Voilà. Il y a plein de questions qui restent en suspens, même si il est probable que Renaissance soit le parti avec le plus de députés à l'issue du second tour.
Vous parlez justement d'un éventuel nouveau Premier ministre et vous dites composer peut-être avec des forces politiques autres. Est-ce que Emmanuel Macron peut-il être contraint et forcé un moment ou un autre de nommer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre?
Alors, j'y crois pas trop, Marianne, parce que là, on serait pas tellement dans les négociations qu'on voit classiquement à l'Assemblée nationale pour former une majorité. Là, on serait plutôt dans un scénario de type cohabitation. C'est-à-dire que c'est un projet politique qui est complètement différent, et parce que c'est le choix du peuple d'avoir mis à l'Assemblée le plus de députés NUPES possible, donc il faut que le Premier ministre soit de ce parti-là. Là, on est vraiment dans un cas de cohabitation, c'est-à-dire qu'on a un projet politique incarné par le Premier ministre qui est complètement différent du projet politique qui a fait élire Emmanuel Macron. Donc je ne crois pas que ce scénario soit possible, je crois que Jean-Luc Mélenchon en joue beaucoup et que pour l'instant ça a marché, mais par contre, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un changement de Premier ministre pour refléter au mieux les nouvelles alliances politiques.
Pour le moment, une première ministre, on en a une, elle s'appelle Elisabeth Borne. Elle est candidate, elle aussi, à cette élection législative, candidate dans la 6e circonscription du Calvados. C'est un territoire favorable à Emmanuel Macron. Il est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle avec 31% des voix dans cette circonscription. On le sait, Emmanuel Macron l'a annoncé, si Elisabeth Borne et également les autres ministres qui sont candidats aux législatives ne l'emportent pas, elle devra démissionner. Il y aura donc une nouvelle première ministre. Est-ce qu'elle joue gros, Elisabeth Borne?
Elle joue très gros, Elisabeth Borne. Alors déjà, c'est son premier combat électoral. C'est la première fois qu'elle se frotte, si je puis m'exprimer ainsi, au suffrage universel. Alors c'est pas une première en France qu'un premier ministre ne soit pas passé par le suffrage universel. On a l'exemple récemment de Dominique de Villepin. Ce qu'on lui avait beaucoup reproché à l'époque, Marianne, c'est que Dominique de Villepin était Premier ministre en France et n'avait jamais été élu député de la nation. Aussi, là où elle joue gros, c'est qu'elle bénéficie quand même pour l'instant d'une image qui lui colle avec quelques ratés ces derniers jours. Moi, j'ai deux exemples qui me viennent en tête. C'est d'abord ce passage où elle avait suggéré à une personne en situation de handicap de reprendre une activité professionnelle à la radio quand quelqu'un l'avait interpellé, ce qui n'était pas du tout passé dans l'opinion. Et fait extrêmement rare, hein, elle avait été contrainte de s'excuser. Ça avait, si vous voulez, un petit peu renforcé son image de technocrate sans affect, très professionnel dans la gestion des dossiers, mais qui n'est pas au contact du peuple. Cette image, elle va devoir jouer sur ça, elle va devoir vraiment convaincre qu'elle peut être aussi cette députée d'une circonscription proche de la nation. Et puis, là où on commence à voir, et c'est ça peut-être qui est plus dangereux, qui peut mettre la puce à l'oreille à Emmanuel Macron d'un potentiel changement de Premier ministre, c'est qu'on a de plus en plus quand même de personnes au gouvernement, évidemment sous couvert d'anonymat, mais qui critiquent en fait le manque de sens politique d'Elisabeth Borne, notamment sur des dossiers où on s'attend à ce que le Premier ministre s'exprime. Un exemple flagrant, c'est celui du Stade de France, et où on a vu qu'en fait les poids lourds du gouvernement, donc Elisabeth Borne en tête, est complètement resté en dehors de cette histoire-là. Mais même Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait un petit peu mis toute la faute sur la nouvelle ministre des Sports, ce qui d'ailleurs lui avait été reproché par Emmanuel Macron. Donc c'est là en fait où on va voir si Elisabeth Borne va pouvoir confirmer son statut de Premier ministre, est-ce qu'elle va réussir véritablement à se mettre dans les bottes d'une candidate en campagne, et puis surtout est-ce qu'elle va réussir à faire taire un petit peu les premiers détracteurs au sein du gouvernement qui aimeraient avoir une Première ministre qui se montre un peu plus, qui prend un peu plus le lead et qui n'est pas simplement une formidable technocrate, ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, ancienne collaboratrice proche de Jospin, mais véritablement passer de l'administration, passer du monde des cabinets politique à celui de représentant politique, et donc avec toute la part de relations avec les élus, mais aussi avec les médias et les citoyens en général.
Et Nathanaël, Elisabeth Borne, c'est pas la seule à jouer son poste dans la bataille. Hein. On parle particulièrement d'elle parce que c'est la chef du gouvernement, mais ils sont 15 ministres à risquer leur poste dans cette élection législative.
Ils sont 15 ministres. Et alors, ce que je trouve aussi intéressant, hein, si on peut se poser la question, hein, voilà, on est auditeur d'Europa Voice, d'SBS, c'est pourquoi est-ce qu'un président nomme des ministres un mois avant des élections législatives en mettant après une condition qui est si vous perdez, vous ne pouvez plus être ministre. Moi, j'ai un petit peu ma réponse à ça, c'est que je pense que, alors est-ce que c'est du calcul politique, est-ce que c'est du cynisme, mais ça permet aussi au président Emmanuel Macron, en cas de résultat, pas forcément pour ses ministres candidats, mais de manière générale, si les résultats sont trop mitigés, d'avoir sous la main comme ça une espèce de soupape de sécurité pour pouvoir changer des ministres en poste et justement avoir des grandes réorientations de son gouvernement. En fait, d'une certaine façon, c'est une vraie volonté politique d'Emmanuel Macron d'avoir autant d'incertitudes sur son prochain gouvernement parce qu'il devra peut-être donner des gages justement à des nouveaux alliés politiques. Donc ça, c'est juste un point sur Emmanuel Macron. Mais effectivement, on a 15 ministres qui jouent leur avenir politique de ministre dans cette bataille législative avec une règle très simple, hein, s'ils perdent, ils doivent quitter leur poste. Alors après, on sait que dans ces ministres-là, il y a les ministres qui ont très peu de chance de perdre leur poste parce qu'ils sont dans des circonscriptions qui sont très favorables, ils sont très bien implantés. Je citais il y a quelques instants Gérald Darmanin, dans sa circonscription du Nord, il y a très peu de chances qu'il soit challengé et qu'il la perde. Mais après, vous avez des ministres qui soit vont pour la première fois au combat, donc il y a quand même toujours encore une fois cette incertitude quand c'est votre première campagne politique, ou soit qui sont dans des circonscriptions où vous avez par exemple Marine Le Pen qui est arrivée en tête du premier tour de la présidentielle. Je pense notamment à la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, où ça va être beaucoup plus difficile parce qu'elle va devoir convaincre d'un projet qui est complètement différent du projet pour lequel la majorité des habitants de la circonscription ont voté. Donc vous voyez, on a comme ça une incertitude sur un certain nombre de ministres, et il est très clair que les 15 ministres ne gagneront pas leur bataille dans ces élections législatives. Et je veux vous dire, même des ministres qui sont bons dans leur dossier, qui sont vraiment des proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, je pense notamment à Clément Beaune, hein, qui a fait un travail formidable, qui a été promu sur les questions européennes, lui, on sait que c'est une campagne qui va être compliquée à Paris, parce qu'il a en face de lui une candidate NUPES très médiatique, il est sur une terre qui est... Alors lui, il vient de la gauche, mais il est sur une terre aussi de gauche. Donc vous voyez, même des ministres qui ont un bon bilan, c'est pas sûr qu'ils soient élus dans cette bataille législative.
Clément Beaune, justement, dont on parle largement dans le Europa Voice numéro 97, si ça vous intéresse. Le premier tour, donc on l'a dit, c'est ce dimanche 12 juin. Le deuxième tour, c'est la semaine d'après, dimanche 19 juin. Nathanaël, dans un futur Europa Voice, on analysera les résultats, bien sûr, de cette élection législative en France. Merci beaucoup, Nathanaël.
Merci beaucoup, Marianne.
C'était Roméo Elvis et sa dernière chanson « Quand je marche » comme Ben Mazuet. On continue notre page consacrée aux élections législatives françaises. On vous le disait, on vient d'entendre un extrait d'Europa Voice partie 1. Demain, il y aura un autre Europa Voice toujours consacré aux élections législatives, cette fois sur les Français de l'étranger. Puisque oui, nous sommes nombreux à être des Français de l'étranger et nous avons déjà voté par anticipation. Donc, nous connaissons déjà nos résultats. Ici, l'Australie, c'est la 11e circonscription. Il y avait comme candidat Pascal Gentil. Il est arrivé quatrième. Il n'est donc plus en lice pour le poste de député des Français de l'étranger. Nous l'avons interviewé.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
C'est la dernière ligne droite pour les élections législatives en France. Le premier tour, ce sera le 12 juin, le deuxième tour, le 19 juin. Mais si, comme nous, vous êtes un Français de l'étranger, eh bien vous avez déjà voté. Le premier tour a eu lieu, ainsi que les résultats. Nous, en Australie, nous sommes dans la 11e circonscription des Français de l'étranger. Et l'un des candidats, c'était Pascal Gentil. Pascal Gentil qui est arrivé quatrième, qui n'est donc plus en lice pour ce second tour et pour être nommé député des Français de l'étranger. Pascal, justement, est venu passer une dizaine de jours ici en Australie et on a réussi à avoir une interview avec lui juste quelques minutes avant qu'il monte dans l'avion pour quitter l'Australie. Pascal, bonjour.
Bonjour.
Avant d'être un homme politique, Pascal, vous êtes un grand sportif, vous êtes médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, vous avez été médaillé deux fois et notamment à Sydney en 2000. On imagine donc que l'Australie a une place importante dans votre cœur.
Ah oui, tout à fait, puisque c'est mes premiers Jeux il y a 22 ans et revenir ici, c'était vraiment chargé en émotions. Et moi, je suis très très content et puis notamment puisque j'ai eu le bonheur de retrouver un de mes amis qui s'appelle Daniel Trenton qui était sur le podium avec moi et j'ai rencontré la légende Cathy Freeman. Donc voilà, énormément de souvenirs et de moments d'émotion et j'espère que je reviendrai pas dans 22 ans mais très bientôt.
On l'espère pour vous. Et expliquez-nous comment on passe d'une carrière de sportif de haut niveau à la politique. On imagine que les ponts ne sont pas forcément évidents mais il y en a.
Il y en a, effectivement. On m'a beaucoup posé la question durant tout ce mois de campagne. En fait, très simplement, j'ai commencé le taekwondo à 18 ans. À 18 ans, on m'a dit que c'était pas possible d'être un champion. J'ai prouvé par ma persévérance et le travail que c'était possible. Et très rapidement, les élus, les sénateurs, les députés, ils voulaient tout le temps m'avoir à côté d'eux sur leur podium. Bon, j'avais pas le droit à la parole, mais je représentais la réussite, le dépassement de soi, je représentais un certain nombre de choses. Donc, avec cette notoriété grandissante, j'ai voulu la mettre à profit. Donc, j'allais dans les écoles, j'allais dans les hôpitaux, j'allais dans les prisons, voir des détenus longue durée. Donc, en gros, je faisais de la politique à l'insu de mon plein gré, puisque je faisais une action pour le peuple. Et voilà, dans la continuité, je suis revenu en Chine il y a maintenant 10 ans et j'ai voulu continuer à m'investir. Et aujourd'hui je suis élu dans la deuxième circonscription de Chine du Nord et la marche au-dessus c'était député.
Donc justement, est-ce que c'était une évolution absolument naturelle ou est-ce que vous y avez tout de même réfléchi?
Alors ça a été une opportunité j'ai envie de dire, puisque un des sénateurs qui s'appelle M. Bansard est venu me chercher, il m'a proposé d'être tête de liste pour une association qui s'appelle la SFE, l'Alliance solidaire des Français de l'étranger. Il connaît mon travail, il connaît mon engagement pour les Français de l'étranger, donc il m'a proposé d'être le fer de lance des différents députés qui l'ont fait. Et après maintes réflexions, j'ai accepté d'y aller parce que je pensais que je pouvais apporter quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis présenté. Et malheureusement, le résultat n'a pas été à la hauteur escomptée. Enfin, beaucoup de gens me voyaient à 2%. Je suis à près de 10%. Donc évidemment, mes frais de campagne sont remboursés. Mais au-delà de ça, j'ai montré que j'étais engagé, tout simplement. J'ai montré que c'est bien d'avoir des gens qui se soucient d'un intérêt plus grand que soi-même. Voilà, tout simplement.
10% pour une quatrième place, c'est quand même assez élevé. Est-ce que vous êtes déçu du résultat ou au contraire, est-ce que vous y voyez un signe d'espoir pour l'avenir ?
Ah non, je suis pas du tout déçu. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages en me disant « tu dois être très déçu », mais en fait, je ne suis pas du tout déçu. Je suis plutôt très très fier du travail qu'on a accompli en si peu de temps, très très fier des prises de position que j'ai eues. Après, l'avenir nous dira, mais... Non, aujourd'hui, je suis très content, je n'ai aucun regret. Je suis un sportif, quand on est sportif, on est prêt à gagner, mais on est aussi prêt à perdre. Donc, j'ai aucun regret, au contraire, bien au contraire, j'avais des petits fabuleux autour de moi, un comité de soutien. J'ai redonné goût à la politique et à certaines personnes, donc, je suis très très content.
Et justement, vous l'avez dit, vous êtes un sportif, on ne devient pas champion olympique du premier coup. C'est probablement la même chose pour la politique, vous n'avez pas gagné là. Mais qu'est-ce que ça dit de votre avenir en politique ? Est-ce que c'est seulement une des premières pièces à l'édifice de votre avenir politique ? Est-ce que vous allez continuer ?
Alors, j'ai un mandat, donc je suis élu, donc j'ai un mandat de 5 ans, donc je vais continuer mon mandat. Et il y aura sans doute d'autres séances sénatoriales ou d'autres. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais continuer à œuvrer, je vais continuer à influer ou avoir un impact dans la vie des Français de l'étranger. Donc, c'est certain que je vais continuer.
Si on regarde le scrutin des élections législatives 2022 d'un petit peu plus près, vous avez d'abord essayé d'être investi avec La République En Marche, mais c'était évident que la députée sortante Anne Genetet allait se représenter. Donc pourquoi avoir eu l'espoir d'être le candidat de la majorité présidentielle ?
Tout simplement parce que j'ai une proximité avec le président et que j'ai beaucoup travaillé avec lui, notamment pour l'obtention des élections de Paris 2024. J'ai rencontré le président le 16 novembre 2016. Je l'ai vu l'été dernier à Tokyo pendant les Jeux Olympiques. Donc j'ai une vraie proximité avec lui. Quand la députée se proclamait candidate officielle du président de la République, moi je dis que je lui ai présenté en janvier 2018. D'ailleurs, la photo où je lui ai présenté, j'ai pris la photo, elle a utilisé dans son club de campagne. Et voilà, je pense que on n'est pas dans le même monde. Moi j'ai une proximité réelle avec le président. Elle l'a rencontré une fois, pour revenir sur ce que vous dites, sur l'investiture, j'étais persuadé que je n'allais pas avoir l'investiture. De toute façon, au sein de La République En Marche, les choses ne sont pas aussi roses, j'ai envie de dire. Je pense que le souhait du président de la République, c'était de rompre avec les anciens partis. Et finalement, quand je vois comment ça se passe à l'intérieur, parfois je me dis, mais il n'y a aucune considération pour les gens, il n'y a aucune concertation. Et donc, je crois que M. Bonsard m'avait proposé d'y aller en tant qu'indépendant. Évidemment, j'ai prévenu le président, évidemment, j'ai prévenu automatiquement. La députée m'a appelé et m'a demandé pourquoi. Je dis tout simplement que je fais ça pour l'intérêt des Français de l'étranger. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de dire les choses et de le faire. Et voilà, après, l'investiture, même si Adjecté a dit qu'elle ne ferait qu'un mandat, je savais pertinemment qu'elle allait s'accrocher, qu'elle allait vouloir y retourner, donc je n'espérais rien de ce côté-là.
Alors justement, elle y est retournée, elle c'est Anne Genetet, la candidate investie par La République En Marche. Elle est arrivée première du premier tour de ce scrutin aux élections législatives avec plus de 38% des voix. Face à elle, Dominique Vidal, la candidate de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Il faut qu'on rappelle quand même à nos auditeurs que la 11e circonscription des Français de l'étranger, c'est 49 pays, c'est la moitié du monde, c'est la plus grande des circonscriptions. Quel est l'enjeu de ce second tour ?
L'enjeu, il est crucial. Il est soit continuer avec Emmanuel Macron et poursuivre dans l'Europe et continuer à réformer, soit, comme le souhaite M. Mélenchon, une désobéissance à l'Europe et un certain nombre de principes qui sont loin de nos valeurs républicaines.
Quelles sont vos consignes de vote pour ce second tour ?
Oh, je n'ai pas donné de consignes pour l'instant. Je ne sais pas si je vais être félicité, mais en tant qu'indépendant, c'est difficile de donner des consignes de vote. Je pense que je vais voter, c'est sûr. Mais je ne prends pas de consignes de vote à part si on me demande.
Et donc, on le disait, 49 pays, dont la Russie, dont l'Ukraine. Comment auriez-vous géré ce conflit si vous aviez gagné cette élection? Et selon vous, que doit faire le vainqueur?
Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser, que ce soit les Russes, que ce soit les Ukrainiens. Il y a un conflit qui existe. Il faut surtout protéger les populations, il faut surtout être à l'écoute. Je pense que c'est ce qui est important. Il y a une vague d'émotion qui a lieu pour l'Ukraine. Et je pense qu'il faut regarder les choses dans l'intégralité. Moi, je vis en Chine. Il y a beaucoup de China bashing. On dit beaucoup de choses sur la Chine. Je pense qu'il faut vivre en Chine pour pouvoir appréhender les choses. Donc pour l'Ukraine et la Russie, je pense qu'il faut regarder les choses dans l'intégralité.
Merci beaucoup, Pascal Gentil. On vous souhaite un excellent voyage.
Au revoir, à bientôt.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
13h58, l'heure du rappel des titres. Anthony Albanese propose un chèque à la France 9 mois après la rupture du contrat des sous-marins, 830 millions de dollars. Une note très salée pour le contribuable australien, mais un pas nécessaire pour sauver la relation franco-australienne, dit le Premier ministre. 3 soldats étrangers, 2 britanniques et un marocain combattant aux côtés des Ukrainiens ont été condamnés à mort par un tribunal pro-russe dans la région de Donetsk. Le Royaume-Uni s'alarme et dénonce une violation de la Convention de Genève. Moscou refuse d'interférer. L'Organisation mondiale de la santé n'exclut plus la possibilité d'une fuite en laboratoire pour expliquer l'existence du Covid-19. Un revirement de taille pour l'OMS qui, après 2 ans et demi d'enquête, fait toujours chou blanc quant aux raisons de l'émergence du virus en Chine. Et enfin, du sport et 3e match consécutif sans victoire pour l'équipe de France en Ligue des Nations. 1 but partout face à l'Autriche hier. Prochain match lundi au Stade de France face à la Croatie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Ça m'a fait très plaisir de passer cette heure en votre compagnie. Votre prochain journal, c'est demain, présenté par Jean-Noël Ducasse, 13h également. Si vous souhaitez réécouter cette émission, vous pouvez la trouver sur notre site internet, notre page Facebook et toutes les plateformes de podcast. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.